Chapitre 9. Don de l'Esprit.
Je vous promets au nom du Seigneur que si vous obéissez à l'Évangile d'un cœur honnête, les dons promis par notre Sauveur vous seront accordés.
Épisode de la vie de Joseph Smith.
La page de titre du Livre de Mormon explique comment ce recueil d'écritures remarquables allait être mis à la disposition du monde. Jadis, les plaques d'or ont été gravées et scellées et cachées dans le Seigneur afin qu'elles ne soient pas détruites. Dans les derniers jours, elles devaient paraître par le don et le pouvoir de Dieu et être interprétées par le don de Dieu. En accomplissement de ces prophéties, Dieu a choisi Joseph Smith pour traduire ses annales sacrées. Il est clair que sa capacité de traduire les caractères anciens n'était pas le fruit de son instruction. Il avait uniquement la capacité de lire, d'écrire et de compter d'un enfant de l'école primaire. C'est par un don venant de Dieu lui-même qu'il a pu traduire des textes écrits de nombreux siècles auparavant dans une langue qui lui était inconnue. Emma Smith, qui a servi de secrétaire au début du travail de son mari, a témoigné de ce don divin. Aucun homme n'aurait pu dicter le texte du manuscrit sans être inspiré, car quand je lui servais de secrétaire, Joseph me dictait pendant des heures et des heures, et quand il reprenait après les repas ou après des interruptions, il recommençait immédiatement là où il s'était arrêté, sans voir le manuscrit ni s'en faire lire une partie. Le Seigneur a donné au prophète l'aide matérielle nécessaire qui lui a permis de poursuivre la traduction. Joseph Knight, père, un ami du prophète, lui a donné plusieurs fois de l'argent et de la nourriture. À un moment particulièrement désespéré, frère Knight s'est rendu chez le prophète pour donner à Joseph et à Oliver un tonneau de maquereaux, du papier ligné pour écrire, ainsi que 9 ou 10 boisseaux de céréales et 5 ou 6 de pommes de terre. Frère Knight a raconté. Joseph et Oliver sont rentrés chez eux et m'ont trouvé avec des provisions. Ils étaient heureux, car ils n'en avaient plus. Au cours des mois d'avril et de mai 1829, la persécution a de plus en plus interrompu le travail de traduction du prophète chez lui à Harmony, en Pennsylvanie. Oliver Cowdery a écrit à un ami, David Whitmer, pour lui parler de l'œuvre sacrée et lui demander de permettre que le travail se poursuive chez les Whitmer à Fayette, dans l'État de New York. Ainsi, fin mai ou début juin 1829, le prophète et Oliver se sont rendus avec David Whitmer dans sa voiture tirée par un cheval à la ferme du père de David, Peter Whitmer père. Pendant le mois de juin, dans une chambre à l'étage de la maison des Whitmer, la traduction a été terminée par le don et par le pouvoir de Dieu. Oliver Cowdery a décrit la magnifique expérience qu'il a eue d'être le secrétaire du prophète. Ce furent là des jours inoubliables. Être là à écouter le son d'une voix parlant sous l'inspiration du ciel éveillait en mon sein la gratitude la plus profonde. Jour après jour, je continuais sans interruption à écrire l'histoire ou annale appelée Livre de Mormon, telle qu'elle tombait de ses lèvres tandis qu'il traduisait à l'aide de l'Ourim et du Toumim. Joseph Smith a alors appris qu'il n'avait ce don divin que lorsqu'il était digne d'être guidé par l'Esprit. David Whitmer a écrit. Un matin, tandis que Joseph Smith s'apprêtait à continuer la traduction, il se passa dans la maison quelque chose qui l'énerva, quelque chose qu'avait fait Emma, sa femme. Oliver et moi montâmes à l'étage, et Joseph monta peu après pour poursuivre la traduction, mais il ne put rien faire. Il ne put traduire une seule syllabe. Il descendit, se rendit dans le verger et pria le Seigneur. Il fut absent pendant près d'une heure, rentra dans la maison et demanda pardon à Emma. Puis il remonta là où nous nous trouvions, et la traduction se poursuivit correctement. Il ne pouvait rien faire s'il n'était pas humble et fidèle. En utilisant humblement et fidèlement le don que Dieu lui accordait, le jeune prophète a accompli la tâche, apparemment impossible, de traduire presque tout le Livre de Mormon entre le début d'avril et la fin de juin 1829.
Enseignement de Joseph Smith. Chacun de nous reçoit des dons de l'Esprit. Les dons de chacun sont nécessaires dans l'Église.
Nous croyons aux dons des langues, de prophétie, de révélation, de vision, de guérison, d'interprétation des langues, etc. Nous croyons à la prophétie, aux langues, aux révélations, aux dons et aux guérisons, et que l'on ne peut bénéficier de tout cela sans le don du Saint-Esprit. Amasa Potter a raconté. Je me rappelle que le prophète s'est levé pour parler à une grande assemblée dans le bosquet à l'ouest du temple de Nauvoo. Il a dit qu'il prêcherait sur les dons spirituels. il a déclaré que chaque saint des derniers jours avait un don et que s'il vivait avec droiture et le demandait, le Saint-Esprit le lui révélerait. Paul dit « À l'un est donné le don des langues, à un autre le don de prophétie, et à un autre le don de guérison. » Et encore, « Tous sont-ils prophètes ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? » montrant manifestement que tous ne possédaient pas ces divers dons, mais que l'un recevait un don, un autre recevait un autre don. Tous ne prophétisaient pas, tous ne parlaient pas en langue, tous ne faisaient pas de miracles, mais tous recevaient le don du Saint-Esprit. Tantôt ils parlaient en langue et prophétisaient à l'époque des apôtres, tantôt pas. L'Église est un corps compact composé de différents membres et elle est strictement analogue au corps humain. Et Paul, après avoir parlé de différents dons, a dit « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Il est évident que non. Cependant, ils sont tous membres d'un seul corps. Tous les membres du corps naturel ne sont pas l'œil, l'oreille, la tête ou la main. Cependant, l'œil ne peut pas dire à l'oreille « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je n'ai pas besoin de toi ». Tous sont autant de composantes de la machine parfaite, le corps unique. Et si un membre souffre, l'ensemble des membres souffre avec lui. Et si un seul membre se réjouit, tous les autres sont honorés avec lui. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10, versets 18 à 21 et versets 26 à 30. Ce sont donc là tous des dons. Ils viennent de Dieu, ils sont de Dieu. Ce sont tous les dons du Saint-Esprit.
Nous recevons les dons de l'Esprit par l'obéissance et par la foi.
Parce que la foi manque, il n'y a pas de fruit. Personne depuis que le monde existe n'a jamais eu de foi sans avoir quelque chose d'autre avec elle. Les anciens éteignaient la violence du feu, échappaient au fil de l'épée. Les femmes recouvraient leurs morts, etc. C'est par la foi que les mondes furent faits. Hébreux chapitre 11, versets 3 et versets 34 et 35. Un homme qui n'a aucun des dons n'a pas la foi. Il se séduit lui-même s'il croit l'avoir. La foi a manqué non seulement parmi les païens, mais aussi parmi ceux qui professent être chrétiens, de sorte que les langues, les guérisons, la prophétie, et les prophètes et les apôtres, et tous les dons et toutes les bénédictions ont manqué. Cet hiver, 1832-1833, s'est passé à traduire les Écritures à l'école des prophètes et à assister à des conférences. J'ai eu de nombreux moments magnifiques où je me suis ressourcé. Les dons qui accompagnent les personnes qui croient et obéissent à l'Évangile sont le gage que le Seigneur ne change jamais dans ses relations avec les humbles qui aiment et suivent la vérité. Ils ont commencé à se déverser parmi nous, comme autrefois. Edward Stevenson était présent quand Joseph Smith prêcha à Pontiac, Michigan, en 1834. Il rapporta ces propos du prophète. « Je vous promets au nom du Seigneur que si vous voulez obéir à l'Évangile d'un cœur honnête, les dons promis par notre Sauveur vous seront accordés, et vous pourrez voir ainsi si je suis un véritable serviteur de Dieu. »
Les dons de l'Esprit sont reçus généralement discrètement et en privé, sans manifestations extérieures.
Les avis des hommes concernant le don du Saint-Esprit sont divers et contradictoires. Il y a des gens qui ont pris l'habitude de décréter que toute manifestation surnaturelle est l'effet de l'Esprit de Dieu, tandis qu'il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a absolument aucune manifestation qui soit liée à lui, et ce n'est qu'une simple impulsion d'esprit ou un sentiment intérieur, une impression ou un témoignage ou une preuve secrète que les hommes possèdent et qu'il n'existe pas de manifestation extérieure. Il n'est pas étonnant que les hommes soient, dans une grande mesure, ignorants des principes du salut, plus particulièrement de la nature de l'office, du pouvoir, de l'influence, des dons et des bénédictions du don du Saint-Esprit, quand on voit que la famille humaine a été enveloppée pendant de nombreux siècles dans des ténèbres et une ignorance grossière, sans révélation ni aucun critère correct pour parvenir à la connaissance des choses de Dieu que l'on ne peut connaître que par l'Esprit de Dieu. Par conséquent, il n'est pas rare qu'il arrive, quand les anciens de notre Église prêchent aux habitants du monde, que s'ils obéissent à l'Évangile, ils recevront le don du Saint-Esprit, que les gens s'attendent à voir quelque manifestation merveilleuse, quelque grand étalage de pouvoir ou l'accomplissement de quelque miracle extraordinaire. Le genre humain a vite fait d'aller à des extrêmes, surtout dans le domaine de la religion. Par conséquent, il veut en général voir des miracles, sinon il ne veut pas croire du tout au don du Saint-Esprit. Si un ancien impose les mains à quelqu'un, beaucoup s'imaginent que la personne doit immédiatement se lever, parler en langue et prophétiser. Cette idée vient de la foi où Paul a imposé les mains à des gens qui avaient déjà, disait-il, été baptisés du baptême de Jean. Après l'imposition des mains, ils avaient parlé en langue et prophétisé. Actes chapitre 19, versets 1 à 6. Nous croyons que le Saint-Esprit est conféré par l'imposition des mains par ceux qui ont l'autorité, et que le don des langues ainsi que le don de prophétie et le don de l'Esprit s'obtiennent par ce moyen. Mais dire ensuite que les hommes ont toujours prophétisé et parlé en langue quand ils ont reçu l'imposition des mains, ce serait dire ce qui n'est pas vrai, ce qui est contraire à la pratique des apôtres et non conforme à l'Écriture sainte. Tous les dons de l'Esprit ne sont pas perceptibles à l'œil naturel ou à l'entendement humain. En réalité, très peu d'entre eux le sont. Il y en a peu que la généralité des hommes pourrait connaître. Pierre et Jean étaient apôtres, et pourtant le tribunal juif les a flagellés comme imposteurs. Paul était à la fois apôtre et prophète, et pourtant on l'a lapidé et on l'a mis en prison. Bien qu'il eût en sa possession le don du Saint-Esprit, les gens n'en savaient rien. Notre Sauveur a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. Hébreux chapitre 1, verset 9. Et cependant, les gens étaient si loin de le connaître qu'ils ont dit qu'il était Belzébul et l'ont crucifié comme imposteur. Qui aurait pu montrer du doigt un pasteur, un docteur ou un évangéliste à leur aspect, et pourtant ils avaient le don du Saint-Esprit? Mais pour en arriver aux autres membres de l'Église et examiner les dons dont parle Paul, nous constaterons qu'en général le monde ne peut rien y connaître, et qu'il n'y en a qu'un ou deux que l'on pourrait connaître immédiatement s'ils étaient tous déversés immédiatement au moment de l'imposition des mains. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, Paul dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Plusieurs dons sont cités ici, et pourtant, lequel de tous ceux-ci un observateur pourrait-il déceler au moment de l'imposition des mains? La parole de sagesse et la parole de connaissance sont des dons au même titre que n'importe quel autre. Et cependant, si une personne possédait ces deux dons ou les recevait par l'imposition des mains, qui le saurait? Une autre pourrait recevoir le don de la foi et les gens l'ignoreraient tout autant. Ou supposons qu'un homme ait le don de guérir ou le pouvoir d'accomplir des miracles. Cela ne se manifesterait pas à ce moment-là. Il faudrait du temps et les circonstances pour mettre tous ces dons en application. Supposez qu'un homme ait le discernement des esprits, qui le saurait? Ou s'il avait l'interprétation des langues, à moins que quelqu'un ne parle dans une langue inconnue, il devrait évidemment garder le silence. Il n'y a que deux dons qui pourraient être rendus visibles, le don des langues et le don de prophétie. Ce sont là les choses dont on parle le plus, et cependant si quelqu'un parlait dans une langue inconnue, selon le témoignage de Paul, il serait un barbare pour ceux qui sont là. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 11. Il dirait que c'est du charabia, et s'il prophétisait, il traiterait cela de sottise. Le don des langues est sans doute le plus petit de tous, cependant c'est celui que l'on recherche le plus. De sorte que, selon le témoignage de l'Écriture et les manifestations de l'Esprit dans les temps anciens, la foule environnante ne pouvait en connaître que très peu de choses, sauf en une occasion extraordinaire, comme le jour de la Pentecôte. Un observateur ne saurait rien des dons les plus grands, les meilleurs et les plus utiles. Le don du Saint-Esprit, le ministère d'ange, ou le pouvoir, la majesté ou la gloire de Dieu, se sont très rarement manifestés publiquement, et c'était généralement au peuple de Dieu, comme aux Israélites. Mais plus généralement, quand des anges sont apparus ou quand Dieu s'est révélé, c'était en privé à des personnes, dans leur chambre, dans le désert ou dans les champs, et cela, en général, sans bruit ni tumulte. L'ange a délivré Pierre de prison au cœur de la nuit. Il est apparu à Paul sans que les hommes qui l'accompagnaient le voient. Il est apparu à Marie et à Élisabeth sans que d'autres le sachent. Il a parlé à Jean-Baptiste à l'insu des gens qui étaient autour de lui. Quand Élisée a vu les chars de feu et leurs troupes, les autres n'en ont rien su. C'est à l'entrée de la tente d'Abraham que le Seigneur lui est apparu. Quand les anges sont présentés à Lot, personne d'autre que lui ne l'a su, ce qui a probablement été le cas avec Abraham et sa femme. C'est dans le buisson ardent, dans le tabernacle ou au sommet de la montagne que le Seigneur est apparu à Moïse. Quand Élie a été enlevé dans un char de feu, le monde n'en a pas été témoin, et quand il a été dans une caverne, il y a eu un vent fort et violent, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Il y a eu un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Puis il y a eu un murmure doux et léger, qui était la voix du Seigneur qui a dit « Que fais-tu ici, Élie ?» 1 Rois, chapitre 19, versets 11 à 13. On ne peut pas toujours connaître le Seigneur par le tonnerre de sa voix, par le déploiement de sa gloire ou par la manifestation de son pouvoir, et les gens qui ont le plus vif désir de voir ces choses-là sont les moins préparés à les affronter. Et si le Seigneur manifestait ses pouvoirs comme il l'a fait aux enfants d'Israël, ces personnes seraient les premières à dire « Que le Seigneur ne parle plus, de peur que nous, son peuple, nous mourions. » Exode, chapitre 20, verset 19.
Conseils pour l'étude et l'enseignement.
Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour vous préparer à enseigner. Le Seigneur a donné à Joseph Smith, le prophète, le don de pouvoir traduire les plaques d'or. Quand le Seigneur vous a-t-il accordé des dons pour vous aider à participer à son œuvre? Que pouvons-nous apprendre de l'histoire qu'a racontée David Whitmer? Quelles expériences personnelles vous ont enseigné que vous devez être digne afin d'utiliser vos dons spirituels? Quel avantage l'Église tire-t-elle du fait d'avoir des membres qui ont différents dons de l'Esprit? Quelle bénédiction avez-vous reçue grâce aux dons spirituels d'autres personnes? Quand avez-vous vu des gens ayant divers dons spirituels travailler en collaboration pour s'aider mutuellement? Pensez à des dons spirituels qui vous rendraient plus fort ou qui vous aideraient à servir le Seigneur et votre prochain. Décidez de ce que vous ferez pour rechercher avec ferveur les meilleurs dons. Doctrine et Alliance, section 46, verset 8. Pensez aux conseils précis que vous trouvez sur la manière dont les dons spirituels se manifestent ou parlez-en. Pourquoi est-il important de se rappeler que les dons spirituels sont très rarement manifestés publiquement? Pourquoi, à votre avis, de nombreux dons spirituels sont-ils accordés discrètement et en privé? Pourquoi est-il important de se rappeler qu'il faudrait du temps et des circonstances pour les mettre en application? Après avoir écouté ce chapitre, à votre avis, quelles sont les raisons d'être des dons spirituels? Écriture en rapport avec le sujet. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 31. 3 Néphis, chapitre 29, verset 6. Moroni, chapitre 10, versets 6 à 23. Doctrine et Alliance, section 46, versets 8 à 33.